sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame la directrice de cabinet représentant le président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Monsieur le sénateur, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le chancelier, Mesdames et Messieurs les secrétaires perpétuels, Monsieur le recteur de l'Académie de Paris, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte la séance solennelle de rentrée des cinq académies qui se tient selon l'usage le mardi le plus proche du 25 octobre, jour anniversaire de la création de l'Institut en 1795. La tradition et les statuts de l'Institut de France qui se composent des cinq académies veulent que pour notre séance commune, le bureau de l'Institut choisisse un thème de réflexion développé par les délégués de chaque académie et qui nous en feront découvrir les différents aspects. Le thème retenu cette année est « Le passé est-il passé ?» Ainsi interviendront successivement M. Georges-Henri Soutou, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé entre obsession et oubli. Monsieur Paul Andreu, délégué de l'Académie des Beaux-Arts, pour son discours intitulé « Un passé encombré et fragile ». Monsieur Thibaut Damour, délégué de l'Académie des Sciences, pour son discours « Le temps passe-t-il ». Monsieur Bernard Potier, délégué de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pour son discours « Les mémoires du présent ». Monsieur Philippe Bossan, délégué de l'Académie française, pour son discours intitulé « Le passé est-il présent ?». Le thème de cette année, « Le passé est-il passé ?», a de profondes résonances dans l'ordre philosophique comme dans l'ordre scientifique. La question posée met en jeu la mémoire des hommes et celle des civilisations. La première concerne la langue. Il en sera question au cours de cette séance. La seconde fait appel aux disciplines historiques et particulièrement à la présence matérielle du passé que met au jour l'archéologie. Permettez à l'archéologue que je suis d'en dire un mot très bref, car il n'en sera plus question aujourd'hui. Les traces matérielles du passé nous parlent de plus en plus clairement grâce au progrès des sciences de la Terre et de la vie. On a fait appel depuis longtemps pour les datations aux mesures du carbone 14, mais aussi d'autres corps simples avec des méthodes qui n'ont pas cessé de gagner en précision. Les restes végétaux qui ont été interrogés dans la même perspective, comme c'est le cas pour la dendrochronologie, mais nous fournissent en même temps des informations sur l'environnement, les cultures et la mise en valeur du territoire. Un autre exemple, l'inscription dans l'espace de l'occupation humaine et divine fournit un autre exemple de renseignement. Ainsi, on a constaté qu'un grand nombre de sanctuaires du Proche-Orient sont tournés vers l'est et que leurs portes s'ouvrent dans cette direction. Au moment de l'ouverture du temple, qui est un rite quotidien essentiel dans les différentes régions autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, cette orientation permet à la lumière de pénétrer jusqu'au fond du temple et d'illuminer les représentations divines qui sont au centre du culte. Les petites variations que nous constatons dans cette orientation semblent correspondre, dans certains cas, au lever du soleil à une date précise, désormais fixée dans la mémoire par le rituel. C'est celle d'une fête majeure et sans doute aussi celle de la fondation du monument. On a pu relever ainsi à Petra l'insertion dans l'espace d'une centaine de petits sanctuaires qui témoignent à travers les cultes pratiqués de la distribution de groupes sociaux dans un espace largement ouvert. L'espace a enregistré le temps. Ainsi, guidé par le terrain, l'archéologue a la ressource d'aller plus loin, en faisant cette fois appel aux objets découverts et surtout aux témoignages écrits, des inscriptions et des sources littéraires, où le passé se dessine souvent sous des formes plus explicites et vient finalement rejoindre, à travers le livre, le passé de notre propre culture et de notre vie personnelle. La parole est maintenant à M. Philippe Baussan, écrivain et musicologue, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Le passé est-il présent ?»
Le passé est-il présent ? Mais de quel passé s'agit-il ? Les remarquables exposés que nous venons d'entendre nous ont donné une parfaite démonstration de la complexité du problème. Est-ce que vous savez encore ce que c'est que le passé, ce que c'est que le présent, ce que c'est que le futur, ou est-ce que vous avez perdu vos repères ? Est-ce que nous pouvons considérer que le présent est quelque chose qui existe et que le temps est quelque chose qui existe ? Mais quel temps ? Quel rapport peut-il bien y avoir entre la conscience que nous pouvons avoir de notre temps et, je parle très concrètement, le temps, celui des battements de notre sang, oui, c'est une manière de mesurer le temps que nous portons en nous, celui des battements de notre sang, celui de notre esprit, la pensée qui nous traverse. Pouvons-nous comparer cela avec la mesure du temps dans le domaine scientifique et puis ce que nous apprennent les philosophes. Alors que justement, la science nous suggère que l'écoulement du temps vers le futur n'est qu'une illusion, un épiphénomène illusoire, n'est-il pas évident que le temps de notre propre pensée, de notre vie, est bel et bien réel ? Chaque mot que je prononce dure une seconde, deux secondes. Est-ce que c'est du temps ou est-ce que ça n'en est pas ? Quel rapport y a-t-il entre ce que mesure avec toute la précision possible un astronome qui regarde au bout de son télescope géant une petite lumière dont il nous affirme solennellement qu'elle date de quelques centaines de millions d'années, qu'elle est par conséquent toute jeune et toute fraîche ? Quel rapport avec ce que nous éprouvons lorsque nous sommes, par exemple, déçus d'une entrevue trop courte, ou bien que nous avons perdu la mesure du temps parce que nous ne le sentions plus passer durant un spectacle qui nous passionnait. Un portrait, ce portrait peint par un artiste du XVIe siècle, mettez-le dans votre imagination. Aimez un portrait du XVIe siècle et voyez-le. Ce portrait peint par un artiste du XVIe siècle, du côté d'Amsterdam, par exemple, lorsque je le contemple et que je l'aime, que je communique directement avec lui, de manière intime et profonde, est-il passé ? Oui, bien sûr, puisque Franz Hals l'a peint en effet vers 1620 ou 1630, et que cela se voit. Et pourtant, puisque je l'aime, qu'il fait partie depuis tant d'années de ma vie et de ma pensée, et qu'il le fera toujours, je puis le voir avec précision n'importe où et n'importe quand. Il suffit que je ferme les yeux et je le vois. Ce tableau est-il daté ? Lorsque nous regardons un portrait, un tableau, le faisons-nous comme le contemplaient les contemporains du peintre ? Évidemment, non. Nous pensons autre chose, nous pensons autrement. Même les détails d'une peinture ont pour nous un sens différent. Cette coiffe, ce col, cette fraise tuyautée que porte cette vieille femme peinte par Franz Hals était alors tout à fait habituelle et ordinaire. C'était le vêtement de tous les jours. Il n'étonnait personne. Et justement, à cause de cela, cette peinture est datée, cette vieille femme est clouée dans un certain contexte historique que nous le connaissions savamment ou pas. Ainsi, cette femme dont nous aimons le visage, les yeux, les petites rides, s'est éloignée de nous, mais par sa coiffe et non par ses yeux. Il y a dans ce portrait deux temps et non pas un seul. Il y a celui de l'histoire, qui communique d'ailleurs avec celui des savants historiens d'art, pour qui nulle œuvre d'art ne peut être sortie du temps où elle a été pensée et peinte, et l'autre, celui du regard, qui tente de communiquer avec le personnage peint, à travers la main du peintre, grâce à elle, mais au-delà d'elle. Ces deux temps ne communiquent pas l'un avec l'autre. Ils se rencontrent parfois, et parfois ils se refusent. Mais est-ce tout ? La dame à l'hermine, que vous connaissez bien sûr, que Léonard de Vinci a peinte il y a 400 ans, est-elle présente, puisque je l'aime tant que je referais volontiers le voyage jusqu'à Cracovie rien que pour la revoir, elle, et lui dire que son visage, son sourire, ses yeux n'ont jamais quitté ma pensée et ma vie, et que, justement, son sourire... Mais est-ce qu'elle sourit ? Non. Regardez mieux, elle ne sourit pas, du moins pas encore. Léonard de Vinci a seulement peint la douceur de ses lèvres qui rejoint, n'est-ce pas étrange, celle de ses yeux. Non, elle ne sourit pas, mais Léonard a modelé ses lèvres de manière à m'obliger, moi qui la regarde, 4 siècles plus tard, à inventer, à imaginer ce sourire qu'elle n'a pas encore fait et qu'elle est sur le point, seulement sur le point, d'adresser à cette personne qui n'est pas là, à droite du tableau, et que je suis obligé d'imaginer aussi. Ainsi, sans rien faire bouger, Léonard a installé le temps dans ce tableau immobile. Il a fait en sorte que notre imagination aille au-delà de ce qu'il montre et nous fasse pressentir, inventer et ressentir le sourire qu'elle ne fait pas encore et qui n'existe que dans notre esprit à nous. Quel miracle la peinture ! La dame à l'hermine, peinte il y a 4 siècles, est présente aujourd'hui à l'instant, mais elle débouche sur le futur, ou plutôt sur quelque chose qui serait le futur d'un passé, un futur qui n'existe pas, mais qu'elle nous oblige à imaginer. Et la musique. Lorsque j'écoute pour la 50e fois une musique que j'aime depuis mon enfance, un concerto de Vivaldi ou un air de Mozart, cette musique est-elle passée ? Ou est-ce que je ressuscite chaque fois la même émotion, les mêmes volutes sonores, puisque, les sachant par cœur, je les anticipe ? Je ne les écoute pas seulement, je ne les reçois pas, je les attends et je les fabrique en moi-même avant même que le musicien ne les fasse entendre sur le disque que je suis en train d'écouter. Et d'ailleurs, que suis-je en train d'écouter ? Est-ce la musique de mon tourne-disque ou celle de ma mémoire ou celle de mon imagination ? Les Grecs, au temps d'Ulysse, et même sans doute bien avant, ont eu toujours un merveilleux génie inventif pour donner forme et sens à tout ce qui, pour les hommes, est difficile à comprendre. Et ils faisaient cela tout simplement grâce à leur mythologie. Les Grecs avaient fait de la mémoire une déesse qu'ils avaient nommée Mnémosyne. Nous ne pratiquons plus assez la mythologie que notre rationalisme qualifie de fantaisie, d'imagination. Il a tort. La mythologie a tant de choses à nous apprendre sur ce que pensent les hommes. Eh bien oui, les Grecs l'ont dit il y a 4 ou 5 000 ans, la mémoire est une déesse. C'est elle qui manipule notre esprit. Elle en fait ce qu'elle veut. Nous nous souvenons, nous oublions et nous ne savons pas pourquoi. Mnémosyne manipule notre moi, nous oublions ceci, nous nous rappelons cela, c'est elle qui décide. Et cette déesse fantasque et lunatique, aimable la plupart du temps, souriante, malicieuse, mais parfois cruelle, plus d'ailleurs par légèreté que par méchanceté, sans que nous le sachions, elle fait de nous ce qu'elle veut. Elle nous cache ceci, que nous oublions, nous montre cela que nous croyons avoir oublié et qui était resté caché au fond de nous dans une souricière. Mais cette mythologie admirable nous apprend une chose capitale, c'est que Mnémosyne, notre chère mémoire, avait épousé, ou plus exactement, car comment imaginer que Junon l'aurait accepté et supporté ? Mnémosyne, donc, avait eu avec Jupiter une relation qu'il faut bien croire assez longue, puisqu'il en a qui 9 petites filles. Eh oui, 9 filles. Nous les appelons les muses, et nous oublions que tous les arts sont les enfants de la mémoire. Quel génie, les Grecs, de nous faire comprendre des choses si graves et si importantes avec des fables. Pas de musique sans la mémoire, pas de poésie sans le souvenir, pas d'histoire sans Clio, pas de tragédie sans Melpomène, pas même de comédie sans Thalie. La mémoire est le fondement de notre pensée et nous ne sommes rien sans elle. Mais permettez-moi maintenant, si du moins les muses le veulent bien, d'aller ce soir un petit peu au-delà de ce que les savants grecs avaient pu imaginer il y a 5 ou 6 000 ans, c'est-à-dire hier, si nous prenons le passé au sérieux. Pouvez-vous concevoir que même Homère, même Hésiode n'avaient pu imaginer que l'aimable Mnémosyne avait une sœur jumelle et qu'elles étaient aussi ressemblantes l'une à l'autre que Castor et Pollux ? On ne pouvait les distinguer l'une de l'autre et elles ne cessaient d'en jouer naturellement, de se faire prendre pour celle-ci alors qu'elle était celle-là, et de rire l'une et l'autre de tous ceux qui avaient pris Mnésine pour Mnémosyne, car c'était ainsi que se nommait la sœur jumelle de la mémoire, Mnésine, l'oubli. Mnésine était aussi charmante que sa sœur Mnémosyne, aussi gracieuse, aussi fantasque, et personne ne pouvait déceler laquelle des deux était là. On croyait que c'était l'une, On avait oublié que la gentille amnésine, avec ses gestes doux, avait tout effacé. On se disait, en se frappant le front, « Mais qu'ai-je donc oublié ? Quel est ce creux dans ma pensée ?» Et sans même qu'on s'en aperçoive, c'était sa sœur qui était à sa place. Et tout d'un coup, Marcel Proust se rappelait tout, le goût de la madeleine trempée dans la tasse de thé, et la tante Léonie, et le parfum des aubépines. Ce n'est pas tant le passé qui est présent, c'est notre mémoire qui le conserve, de même que notre moi n'existe que dans la mesure où notre mémoire nous rappelle d'instant en instant la continuité du déroulement de notre temps. Nous ne sommes moi que dans la mesure où nous avons conscience de cette continuité. Marcel Proust a définitivement fait et refait cette expérience depuis les premières pages de « Du côté de chez Swann » jusqu'aux dernières du « Temps retrouvé ». Il est impossible aujourd'hui de ne pas parler de Proust et de ne pas le citer. Je cite quelques phrases de lui. « Oui, si le souvenir, grâce à l'oubli, n'a pu contracter aucun lien, jeter aucun chaînon entre lui et la minute présente, s'il est resté à sa place, à sa date, s'il a gardé ses distances, son isolement dans le creux d'une vallée ou à la pointe d'un sommet, il nous fait tout à coup respirer un air nouveau, précisément parce que c'est un air qu'on a respiré autrefois. Cet air plus pur que les poètes ont vainement essayé de faire régner dans le paradis et qui ne pourrait donner cette sensation profonde de renouvellement que s'il avait été respiré déjà, car les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. » Mais cette continuité de notre pensée grâce à la mémoire, subtilement interrompue par amnésine au gré de ses lubies, on la retrouve aussi sous toutes ses formes et l'homme fait usage de ces vides de la pensée autant que des pleins. Permettez-moi de revenir un instant sur l'art du peintre et de l'un des plus grands de toute notre histoire. Comment peignait le Titien ? Comment travaillait-il ? On le sait par plusieurs témoignages, et c'est bien étrange. Dans ses tableaux de vieillesse, il ne caressait plus la toile avec douceur comme il le faisait dans ses jeunes années et qu'il peignait la Vénus d'Urbino. Ses coups de pinceau avaient acquis une étrange vivacité et même une certaine violence qui les font ressembler à ceux de nos impressionnistes. Pour ses derniers grands chefs-d'œuvre, la Pietà, le supplice de Marsyas, on a comme le sentiment qu'il fixe sur la toile non pas le sujet qu'il peint, mais quelque chose comme la hâte de sa main et l'angoisse du temps qui passe. Et Vasari, son premier biographe, qu'il a bien connu et qui résidait chez lui, raconte comment, après avoir peint à coups de poignet, il s'arrêtait, retournait le tableau vers le mur, à l'envers, pour ne plus le voir. Et puis des semaines ou des mois plus tard, il le retournait et le contemplait longuement. Et Vasari ajoute d'un air sévère, comme si c'était son ennemi. Puis, continue Vasari, sa main reprenait possession du tableau et il se remettait à peindre. Pourquoi ce double mouvement ? Pourquoi cacher son œuvre contre le mur ? Pourquoi ? Pour ne plus la voir, ou au contraire, pour la garder secrètement, plus profondément que si, en effet, on pouvait la voir à chaque instant. La garder en soi, pour que cette œuvre en devenir soit pendant un temps transformée en passé, c'est-à-dire, par définition, de l'art qui ne bouge pas, qui ne change pas. Il m'a semblé que ce serait le plus direct chemin vers ce qui passe, puisque la peinture arrête tous les mouvements et nous oblige, par conséquent, à les imaginer. J'aurais pu parler davantage de musique, puisque justement, c'est le contraire, sa matière à elle, c'est le temps. La musique, ce n'est rien d'autre que l'art de donner une forme au temps. Lorsque nous l'écoutons, les secondes qui se succèdent, non pas l'une après l'autre comme des objets, mais dans une continuité sans matière et sans substance, comme un filet d'eau qui coule entre des cailloux immobiles, la musique a pour fonction de donner au temps une forme, mais immatérielle, impalpable, quelque chose comme un parfum. Ainsi, lorsque nous écoutons un air de Fiordiligi ou le mouvement d'une fugue de Bach, notre temps à nous, celui de notre respiration et de notre cœur, est devenu le leur. La musique a l'incroyable pouvoir de modeler le déroulement de notre pensée sur son tempo à elle et de nous conduire le long du chemin qu'elle trace en nous comme elle veut bien. Et pour peu que nous la sachions par cœur, en l'anticipant, nous faisons en sorte que non seulement le passé est toujours présent, mais que le futur le soit lui-même, selon le rythme qu'a voulu Bach ou Mozart. In modum pulsus eque respirantis.